que c'était une bonne chose que vous soyez mis un peu à l'épreuve pour écouter les rapports de ces différents ateliers. Nous devons savoir écouter aussi, hein, et puis user de patience, et ça nous permet aussi de nous rendre compte de ce qui se passe dans une de ces retraites. Et c'est évident que c'est comme la préparation des deux autres retraites qui vont venir. Nous avons fait le premier volet, et à la fin du premier volet, eh bien, ça prépare déjà le deuxième volet, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas séparer, mais pour aller progressivement, nous étions obligés de partager. On ne peut pas tout dire à la fois. Alors, nous approchons donc de cette deuxième retraite qui va nous montrer alors la présence et l'action du Saint-Esprit dans l'œuvre de la rédemption, et puis la présence et les opérations du Saint-Esprit dans l'Église et dans les croyants. Mais ce que nous avions à cœur de souligner, c'était que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans la création, parce qu'on parle rarement de cela. Or, la première mention du Saint-Esprit se trouve justement dans ce chapitre premier de la Genèse, et nous le voyons à l'œuvre dans la création. Alors, maintenant, puisque j'ai déjà répondu hier soir, j'ai présenté quand même l'essentiel, je ne reviens pas sur hier soir, nous voyons simplement les questions que vous avez examinées aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'était-il qu'une puissance dans l'Ancien Testament ou était-il une personne? Eh bien, il est évident que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous le voyez moins comme une personne. Alors, des commentateurs ont dit, dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas le Saint-Esprit comme une personne. Or, ça, c'est faux. Quels que soient les théologiens qui vous disent cela. N'est-ce pas? Il apparaît essentiellement comme une puissance dans l'Ancien Testament. Et il n'est pas pleinement manifesté comme une personne, mais il est une personne. Et pourquoi devez-vous lire toute la Bible? C'est parce que, par exemple, dans Hébreux, au chapitre 9, je n'ai pas pu vous mettre tous les passages, mais Hébreux, chapitre 9, qu'est-ce qu'il est dit du Saint-Esprit? Au sujet... Oui, c'est... Chapitre 9, verset 14, ou déjà verset 13. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souliers sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit, éternel. Donc, c'est clair, hein? L'Esprit est éternel. De sorte que c'est une personne qui est éternelle, comme Dieu est éternel, comme le Fils est éternel. Nous ne croyons pas que Jésus a reçu au baptême vraiment une délégation pour être fils de Dieu, une divinité qui serait fonctionnelle, comme certains l'ont dit dans le protestantisme. Nous croyons à la divinité fonctionnelle ou essentielle? Essentielle du Fils. Mais sa manifestation a été vue dans son incarnation. Dans l'Ancien Testament, le Fils était déjà là, éternel, dans la communion de son Père. Il est éternel, mais quand il se manifestait dans l'Ancien Testament, c'était sous une figure humaine ou angélique, appelée souvent l'ange de l'Éternel. Toutes ces théophanies de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ces manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, on ne peut voir Dieu qu'en la personne de son Fils. De sorte que sa manifestation a été vue dans son incarnation. Le mystère de Dieu est grand, 1 Timothée 3, 15, Dieu manifesté en chair. Il y a eu un jour où Dieu a été manifesté en chair dans la personne de son Fils. Celui qui était de condition divine, mais qui était éternel, n'est-ce pas, s'est anéanti lui-même, Philippiens 2, et a été trouvé ici-bas en figure comme un homme. Il a été vu comme un homme, et il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Alors, si vous avez maintenant bien devant vous la personne du Fils, bien, vous aurez les vraies réponses à toutes ces questions que nous avons suggérées. Le Saint-Esprit n'était-il qu'une puissance dans l'Ancien Testament ou était-il une personne? Eh bien, dans l'Ancien Testament, il apparaît surtout comme une puissance. Et il saisissait un homme. Il possédait un homme, mais il n'en faisait pas sa demeure. Vous ne voyez pas que le Saint-Esprit soit demeuré toujours complètement dans un homme. Il pouvait se retirer. Tandis que, comme nous allons le voir dans la prochaine rencontre, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait sa demeure, ou fait sa demeure, dans l'homme. Et il ne se retire pas. Quand il a régénéré quelqu'un, il habite en nous pour y demeurer éternellement. Il est l'Esprit éternel. Mais vous voyez, il y a une gradation dans cette connaissance du Saint-Esprit. Il est déjà dans l'Ancien Testament, c'est une personne de la Trinité, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. De sorte que vous lisez, sans ça, vous arriverez à penser qu'il y a des contradictions dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, dans la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tenait debout et il criait à forte voix en disant à la fin de la fête, chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et qu'est-ce que l'Écriture? C'est l'Ancien Testament. Hein? C'était donc annoncé que le Saint-Esprit viendrait dans l'Ancien Testament. C'était annoncé. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Mais il n'était pas encore comme il le serait après la glorification du Seigneur, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait d'abord que Jésus, après son abaissement, soit élevé dans une gloire aussi haute que son abaissement avait été profond, et alors la promesse du Père s'accomplirait, et le Saint-Esprit viendrait faire son habitation dans l'homme. Mais déjà dans l'Ancien Testament, vous voyez que le Saint-Esprit saisissait même un païen comme Balaam, enfin un prophète, mais qui était païen. Eh bien, le Saint-Esprit l'a possédé et il a dû dire les paroles du Seigneur. Mais il n'habitait pas en lui. Maintenant, Samson, la force de Samson, elle n'a jamais été attribuée à ses muscles. Ce n'est pas parce que vous auriez des gros muscles que vous me ferez penser à Samson. Pas du tout, n'est-ce pas? Mais il était saisi par l'Esprit et c'était une force qui n'était pas la sienne, mais la force de l'Esprit. Donc, l'Esprit est une puissance. Il ne faut pas opposer les mots. Il est une puissance, puis il est aussi une influence. Mais Samson, malgré qu'il pouvait connaître quelque chose de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui le conduisait chez la jeune fille philistine pour l'épouser. Elle me plaît, qu'il disait à ses parents. Cette fille, elle me plaît. Mais on lui disait, mais il n'y a pas en Israël quelqu'un pour toi? Mais elle me plaît. C'est le raisonnement de plusieurs. Alors on l'épouse, puis ça marche mal. N'est-ce pas? On ne se soumet pas du tout à la pensée de Dieu. Et alors, on est soi-même l'auteur, souvent, de ce désastre conjugal. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduit chez Delilah. N'est-ce pas? Et puis, il a pensé que, mais du moment qu'il avait fait des expériences extraordinaires, quand il était saisi par le Saint-Esprit, ça serait toujours comme ça. Et puis, pour finir, il lui révèle son secret. Elle l'endort sur ses genoux. Et puis, on lui coupe ses tresses. Et c'est fini. Et le pauvre Samson meurt aveugle. Mais il s'est humilié. Mais il est mort aveugle. Vous voyez, on peut tomber, et Samson est tombé. Mais qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il a été pardonné, Samson? Oui, la force lui est revenue. Mais les cicatrices sont restées. Il est mort aveugle. Alors, attention, cicatrices. Toute la parole doit nous enseigner. Alors, pour nous, il est important vraiment de savoir que le Saint-Esprit est une personne. Oui, une puissance, une influence, mais c'est une personne, c'est quelqu'un. Alors, dans les jours à venir, nous allons étudier tout ce qui concerne cette personne. Si nous voyons le Saint-Esprit agir dans l'Ancien Testament, quand fut-il pleinement révélé comme une personne? Bien, il a été révélé comme une personne vraiment. À la conception de Marie, et je voudrais que vous vous souveniez, le Saint-Esprit planait sur les eaux. Ça, c'est la création. Et puis, qu'est-ce que l'ange dit dans la salutation à Marie, la mère bénie de notre Seigneur, celle qui a été choisie? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. Eh bien, comme le Saint-Esprit couvrait la création, le Saint-Esprit a couvert Marie, comme aussi plus tard, il couvrira l'Église, le rassemblement des 120 à Jérusalem. C'est toujours le même Saint-Esprit. Et je suis heureux que quelqu'un se soit souvenu et l'ait rappelé. La grande leçon, une des grandes leçons de Marie, c'est que quand elle s'écrie « Mais comment ces choses peuvent-elles se faire ?» quand elle entend que ce qui va se passer en elle, et puis elle ne connaît pas d'homme, alors l'ange lui dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et alors elle s'écrie « Je suis là !» servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Et je dis que servir le Seigneur, c'est pas faire des choses pour le Seigneur. Parce que si vous voulez faire des choses pour le Seigneur, beaucoup de vos choses seront des œuvres mortes. Et pourquoi toutes ces œuvres chrétiennes sont si souvent dans le rouge? C'est parce que ce sont des œuvres que nous avons voulu faire nous-mêmes. Parce que Dieu n'est pas dans le rouge. Vous pensez que Dieu est dans le rouge? L'or et l'argent sont à moi. Et quand c'est quelque chose que Dieu veut, quand c'est sa volonté, eh bien, il donne ce qu'il ordonne. De cela, vous pouvez être sûr, c'est une règle. Et pour moi, c'est Jésus qui m'instruit et qui me montre. Lui, quand il était sur la terre, il vivait dans une dépendance absolument complète de qui? De son Père. Je vous l'ai dit souvent, il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père, et il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Alors, ce qui se fait dans le monde, hein, aujourd'hui, au nom du Seigneur, qui se porte très mal dans le monde, hein, eh bien, ce qui se fait dans le monde, est-ce que c'est des choses qu'on a vu faire par le Père? On prend toute espèce d'initiative pour le Seigneur, on veut servir le Seigneur, on a ses plans et puis on demande à Dieu de les bénir. Je veux faire une œuvre pour Dieu, il m'a sauvé, bien maintenant, moi je veux faire quelque chose pour lui. Et c'est toujours le moi, moi, moi. Est-ce que Dieu t'a appelé à cela? S'il ne t'a pas appelé, ce sera un échec, tu peux être sûr. Et les échecs se multiplient dans cette chrétienté. C'est si triste. Ou bien alors, maintenant qu'il y a la récession, pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas pasteur? Ça ne va pas. Peut-être que là, dans une école biblique, on va me recevoir, parce qu'on reçoit n'importe qui à peu près. Parce qu'il faut qu'on soit aussi nombreux dans cette école que ce qu'on entend dire dans l'autre, n'est-ce pas? Alors il y a une espèce de stimulation, mes chers amis, je n'ai rien contre les études, je n'ai rien contre une préparation, tout cela c'est nécessaire. Mais est-ce que vous avez été appelé? Parce que si vous n'avez pas été appelé, vous ferez beaucoup de mal dans l'œuvre de Dieu. Comprenez-vous? Et c'est à cause de vous que les gens ne voudront pas se convertir. Quelqu'un me disait que son propre père, qui a connu un milieu évangélique, il était d'origine catholique romaine, il va dans un milieu évangélique, bon, et puis il a été un certain temps, et puis après, eh bien, il en est sorti. Et vous savez ce qu'il a dit ? Qu'on lui avait appris la haine des catholiques. C'est ça, un milieu évangélique, où on vous apprend à haïr les catholiques. C'est pas ce que Jésus m'a enseigné. Jésus a aimé les hommes. Et quand il voyait quelqu'un qui disait quelque chose de juste, même s'il n'était pas encore au point, selon Jésus, qui pouvait vraiment juger, il disait, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Hein? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Nous, on aurait dit, tu n'y es pas du tout. Tu n'y es pas loin, tu n'es pas loin, mais tu n'y es pas du tout. Et on aurait menacé immédiatement, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Le Seigneur, il est positif. Eh bien, nous devons être aussi positifs. Avoir de la patience, hein, et de l'amour, Et si nous demandons que le Seigneur éclaire les autres âmes, nous devons aussi penser que nous-mêmes, nous avons besoin encore d'être éclairés, d'avoir plus de lumière. Mais je dis ceci, bien sûr, vous aviez dit, l'homme propose et Dieu dispose. Eh bien, chaque matin, on est bien obligé de se proposer certaines choses. On le dit au Seigneur, on prépare sa journée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, si ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu, parce qu'il y a des imprévus, il y a un téléphone, il y a une personne qui veut nous voir absolument, et puis pourtant on a d'autres rendez-vous, mais il y a des priorités. Alors tout d'un coup, eh bien, on a un discernement, et au lieu que je me heurte contre ce que je m'étais promis, hein, contre la volonté de Dieu qui s'impose, je me mets tout de suite en accord. Parce que ce que j'ai compris, c'est que mes déceptions n'étaient que des réactions de ma chair. Ça ne se passe pas comme je voulais. Alors que je suis heureux de dire, moi je n'avais pas prévu cela, mais toi tu l'as prévu, alors je suis heureux. Et on reste dans la paix, on reste heureux et dans la reconnaissance. Voilà. Je vais m'arrêter là, et cet après-midi, nous aurons donc un dernier message, la prière de l'Esprit, qui sera un message très court, après quoi nous aurons un partage, et ceux qui voudront partager et qui ont quelque chose de positif à dire de ce qu'ils ont pu recevoir, eh bien, nous aurons le plaisir et la joie de les écouter. Après quoi, nous aurons le culte d'adoration dans la liberté de l'esprit. Mais nous voudrions dire tout de suite, je le redirai cet après-midi aussi, cette table qui sera au milieu de nous, comme elle était le soir où Jésus a institué la scène, à cette table, ce n'est pas à nous qui présidons, c'est le Seigneur. Mais évidemment, pour l'Église romaine, c'est péché que de participer à un culte où il n'est pas présidé par un prêtre ayant reçu l'imposition des mains de la hiérarchie. Alors, nous voulons être absolument droit et vous dire que si vous êtes romain, eh bien, selon votre Église, vous péchez en prenant la communion avec d'autres croyants qui la prendraient aujourd'hui. Mais, d'autre part, nous vous disons, ce n'est pas à nous qui allons vous empêcher de vous approcher de la table du Seigneur. Parce qu'il dit, c'est le Seigneur qui est au milieu de nous et qui nous invite. Que dit-il? Faites ceci en mémoire de moi. Mais nous ne sommes pas pour les communions sauvages, comprenez-vous? Oh, on veut tout aplanir, et puis on veut manifester qu'on est unis. Nous ne voulons pas singer la communion. Nous voulons être vraiment en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de l'amertume dans nos cœurs contre un frère ou contre une sœur. Nous demandons au Seigneur qu'il nous prépare et nous ne passerons pas la scène dans les bancs. Tout cela sera sur une table et ceux qui le voudront, dans l'ordre, se lèveront et viendront eux-mêmes prendre le pain et le vin et qui nous parle du corps de Christ donné pour nous.
et de son sang versé pour nous. Et aussi, réellement, que nous mangeons et que nous buvons, nous confessons à la table du Seigneur que nous n'avons plus un Christ extérieur à nous, mais que nous avons un Christ intérieur. Et que nous l'attendons. Et vous trouverez simplement, parce que nous ne parlons pas d'argent ici, mais vous trouverez sur la table une boîte pour l'offrande que vous pourriez avoir à cœur de mettre pour l'œuvre du Seigneur. Non pas pour nous, mais pour l'œuvre du Seigneur. Puisque dans le culte, il y a aussi une participation de nos biens. Mais tout cela, c'est uniquement volontaire. Et si vous ne donnez rien, cela importe peu pour nous. Mais chacun de nous, nous avons affaire avec le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous allons maintenant te demander que tu présides vraiment cette fin de retraite et que ce culte que nous désirons avoir nous amène les uns les autres à une vraie adoration de ta personne. Seigneur Jésus, qui s'est donné pour nous et qui nous a fait connaître le Père, qui nous aime et que nous bénissons. Amen. Amen. Pour introduire ce court moment que nous allons passer ensemble cet après-midi, je dirai quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains et dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Ce sujet que j'ai intitulé « La prière de l'Esprit ». Après cela, nous aurons quelques témoignages, un partage de ceux qui le voudront, dans la simplicité. Puis, nous aurons alors ce culte d'adoration dans la liberté de l'esprit, si l'un ou l'autre a à cœur un passage biblique, que chacun se sente libre de le lire ou de donner un mot. Soyons brefs pour que tous aient la possibilité de s'exprimer. Ou peut-être ce sera un cantique, pas nécessairement, je l'espère, un cantique préféré, mais un cantique qui est dans le ton du culte, dans la ligne de ce qui se dit, soit par la parole, soit par une action de grâce, et que tout soit centré sur la personne du Seigneur, qui est présent réellement au milieu de nous, puisqu'il l'a dit lui-même, et nous croyons à sa présence réelle, selon ses propres paroles, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. En quel nom sommes-nous rassemblés? Au nom de Jésus. Je suis là, au milieu d'eux. Alors, ce n'est pas qu'une table, c'est la personne du Seigneur que notre foi voudrait contempler pour pouvoir répondre au désir de son cœur. Faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons nous laisser imprégner de la vie de Jésus et nous souvenir de sa mémoire et accomplir cet acte d'amour en retour à tout son amour et en attendant qu'il vienne, parce que très bientôt nous n'aurons plus besoin de ses signes, nous le verrons lui-même face à face, et quand nous le verrons, nous aurons été changés à son image. Quelle merveilleuse espérance. Alors nous lisons maintenant dans le chapitre 8 des Romains, ces versets que vous devez de plus en plus connaître par cœur, verset 19e, la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement cela, elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire les premiers fruits de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car si nous croyons que Jésus est mort pour sauver nos âmes, nous savons qu'il n'a pas seulement sauvé nos âmes, mais l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Nous aurons aussi un jour la rédemption de nos corps, soit par la résurrection, soit par la transmutation à l'heure de son retour. Et tout cela se passera, selon l'Écriture, en un instant et en un clin d'œil. Verset 24. Car nous avons été sauvés en espérance. Le plein salut, nous ne l'avons pas encore. Nous l'avons en espérance, mais nous sommes assurés de ce salut. Mais quand nous le posséderons, alors plus d'infirmité, plus de douleur, plus de souffrance, plus de cris, plus de peine, les premières choses seront passées, toutes choses seront faites nouvelles. Oui, nous sommes sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité ou dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimable. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les siens, les saints, selon Dieu. Figurez-vous que quand vous ne savez pas et que vous soupirez, qu'est-ce que ce soupir? C'est une prière. Et l'Esprit connaît ce soupir. Mais nous savons celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc l'Esprit nous vient en aide. Et nous demandons que cet après-midi, ce soit vraiment des prières de l'Esprit. Et j'en reviens maintenant au chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 25e, au 17e, c'est le Seigneur qui parle. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Mais bien-aimés, sommes-nous vraiment dans la communion du Saint-Esprit? Pouvons-nous prier dans le même sens que l'Esprit? Pouvons-nous laisser le Saint-Esprit en nous dire vraiment au Seigneur, viens? Est-ce que vous êtes prêts en ce jour de juin d'aller habiter ailleurs? Non pas dans le sud, mais en haut. Car c'est là que le Seigneur a promis de nous introduire. Alors si nous lui disions, viens, nous savons où il nous conduira lorsqu'il sera venu. Au chapitre 14 de Jean, il disait à ses disciples, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si je m'en vais, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Donc nous pouvons croire les paroles du Seigneur. Et dans sa prière, qu'on appelle la prière sacerdotale, au chapitre 17 de Jean, le Seigneur a pu dire à son Père, « Père, je veux !» Et on a pu souligner que c'est la seule fois où Jésus a dit « Je veux !» à son Père. Toujours soumis à sa volonté. Mais là, il a dit à son Père, « Je veux !» Et ce « Je veux » pour qui l'a-t-il dit ? Pour nous. N'est-ce pas merveilleux son amour? Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Figurez-vous quel avenir nous avons et combien nous devrions nous laisser soulever par cette espérance, parce que, en effet, nous sommes sauvés qu'en espérance. Nous sommes encore dans des corps de souffrance, nous sommes encore dans des corps de chair, et Jésus nous a dit que la chair était faible. De sorte que la vraie espérance de l'Église, la vraie espérance chrétienne, c'est d'être auprès de son Maître, de son Sauveur, de son Seigneur. Mais est-ce qu'elle habite nos cœurs, cette espérance? Est-ce que nous pouvons, dans la communion du Saint-Esprit, puisque l'Esprit dit bien avec l'Église, avec l'Épouse, est-ce que nous qui entendons, nous pouvons joindre notre prière et dire « Viens ». Que celui qui entend, est-ce que nous entendons en cette fin de retraite, que celui qui entend dise « Viens ». Et ça, vous pouvez être sûr que c'est la prière de l'Esprit. Et que celui qui sonde nos soupirs connaît le désir de nos cœurs. Et Jésus lui-même, nous est-il dit dans le chapitre 8 des Romains aussi, intercède pour nous devant Dieu. Et s'il peut entendre la prière de nos cœurs, viens. Viens, Seigneur Jésus. Pour moi, c'est la vraie prière œcuménique. Si tous les croyants de la terre pouvaient dire cette prière, viens, Seigneur Jésus, je crois qu'on ne tarderait pas à être réunis avec lui. Mais on ne désire pas tellement sa venue. Parce qu'évidemment, quand nous serons auprès de lui, nos vies seront pleinement manifestées. Alors je vous pose encore cette question. Est-ce que nous pouvons dire « Viens » ? Que celui qui a soif, mais au fond, est-ce que vous n'avez pas soif de son retour ? Ou bien ça ne vous dit rien? Ou bien est-ce que vous identifiez ce retour avec la mort? Comme si c'était ça la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, ce n'est pas la mort. Nous n'attendons pas la mort. Peut-être que nous devrons mourir. Mais ce que nous attendons, c'est Jésus. Et par-delà la mort, nous voyons déjà la résurrection. Parce que nos corps aussi connaîtront la rédemption. Que celui qui a soif vienne. Voulez-vous venir en cette heure pour pouvoir dire oui, viens, Seigneur Jésus. Que celui qui veut. Notez bien, il n'est pas dit celui qui peut, mais que celui qui veut. Que celui qui veut. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, mais c'est que vous ne voulez pas. Est-ce que nous voulons qu'il vienne? Que celui qui veut, prenne gratuitement de l'eau de la vie. Eh bien, puissions-nous, dans ce moment, nous désaltérer à cette eau de la vie. Quand Jésus lui-même parlait à la Samaritaine, en lui disant, celui qui boit de l'eau du puits de Jacob, il aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui, là où il va, là où il se trouve, une fontaine qui jaillira en vie éternelle. Que nous soyons, jusqu'à ce qu'il vienne, une fontaine jaillissant en vie éternelle pour les âmes qui nous entourent. Qu'il en soit ainsi. Amen.
On m'a demandé si je voulais bien venir en avant une autre fois pour partager avec vous ce que je vous ai apporté hier soir. Puis j'ai accepté. Et puis, c'était en fait basé sur une expérience personnelle que j'ai vécue à mon cégep. Souvent, comment c'est difficile pour un chrétien de démontrer sa foi avec confiance quand nous sommes placés dans un environnement qui est tellement adverse. Et puis, vu que j'étudie en sciences, et puis je fais souvent face à mes professeurs agnostiques qui mangent les chrétiens pour dîner, il fallait que je sois équipé. Mais on a toujours peur. Et puis, une journée, entre autres, qui était peut-être plus marquante qu'une autre, ce fut lors d'une petite conférence avec mon professeur de physique, et puis la manière qu'il présentait ses théories. Et puis, j'étais assez instruit pour savoir ce qu'il était en train de dire. J'en avais lu, mais mes propres affaires, j'en avais fait mes propres études sur le sujet. Mais c'était drôle de voir comment la façon qu'il essaie de ridiculiser la foi. Parce que il y avait un professeur, j'avais des questions que je voulais y poser, je voulais essayer peut-être de trouver des pièges ou quelque chose que je pourrais au moins faire réfléchir les gens qui étaient dans la salle. Mes autres étudiants, mes autres copains, et puis, parce que je ne pouvais pas rester tranquille, voir tout le monde en train. De se mettre assis, puis d'absorber les mensonges. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Souvent, on n'ose pas s'instruire nous-mêmes, on n'ose pas chercher pour nous-mêmes la vérité. Puis on accepte ce qu'on nous enseigne, on accepte ce qui semble être le plus répandu. C'est comme une fois, il y avait une conférence ici, lorsqu'on, je ne me rappelle pas des personnes, mais c'est dans la Bible où qu'il y avait des prophètes, il y avait plein de prophètes qui voulaient dire quelque chose. Et puis, c'est facile de croire quelque chose quand la majorité alentour de nous le croit. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. La proportion de personnes qui croient une chose ne rend pas la chose vraie, nécessairement. Et puis, c'est pour ça que c'est difficile dans les écoles, dans le monde, de oser confronter le mensonge. C'est pour ça que cette fois-ci, je voulais vous lire entièrement le passage que j'ai apporté. C'était dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18. Et puis, c'est en effet un passage qui contraste la sagesse que la Bible nous donne avec la sagesse du monde, la sagesse des sages de ce monde. Et je vais la lire à partir du verset 18, 1 Corinthiens 1, verset 18. « En effet, la prédication de la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. » Comme je vous ai dit aussi, je peux rajouter dans ce texte aussi, sans changer la signification ou ce que ça veut dire, c'est qu'en effet, la prédication de la création du monde, c'est la même chose, parce que dans la création, on trouve le péché, on trouve aussi, dès le début, le plan de la rédemption de Dieu. Le plan de la rédemption de Dieu, c'est basé sur la création aussi, et c'est ce qu'on trouve ici. Le Christ mort sur la croix, c'est en fait le plan de Dieu. Et dès qu'on commence à changer notre base, la création, c'est qu'il ne reste pas grand-chose. Donc, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. » Alors, que peut encore dire le sage, ou l'homme instruit, ou le discuteur de ce monde? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, le monde a été incapable, au moyen de la sagesse humaine, de reconnaître Dieu là où se manifestait la sagesse divine. Pourtant, c'est bien clair qu'il y a un Dieu. Alentour de nous, nous sommes sans excuse, mais on ne veut pas l'accepter. Et puis, c'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient en utilisant ce message apparemment fou que nous prêchons. Les Juifs demandent des miracles comme preuve et les Grecs cherchent la sagesse. Quant à nous, nous annonçons le Christ cloué sur la croix. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est ça la vraie sagesse. Car ce qui paraît être la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui paraît être la faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Considérez, frères, quels sont ceux que Dieu a appelés à former votre groupe. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de membres de familles importantes. Mais Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, ce qui n'est rien à ses yeux, pour détruire ce qu'il estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. Par le Christ, nous sommes rendus justes devant Dieu. Nous sommes amenés à vivre pour Dieu et nous sommes délivrés du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, celui qui désire se vanter doit se vanter de ce que le Seigneur a accompli. Il faut se vanter de cette vérité. Mais c'est justement la difficulté quand on se vante, qu'on dit que Dieu est mort, que je pourrais, comme j'avais dit l'autre fois, si je me mets dans les salles de mon couloir et dis que Dieu est mort, je vais avoir des personnes qui vont venir, qui vont vouloir m'en parler. C'est intéressant comme idée. C'est pas nouveau non plus. Mais si je m'en vais et je commence à proclamer « Au commencement, Dieu créa la terre », je passe pour un fou. Et puis, je m'en réjouis un peu maintenant parce que c'est justement ce que Dieu me demande de faire. Mais malgré tout ce qu'on peut subir dans nos environnements, il y a aussi un autre passage que je voulais lire qui devrait être aussi important de ce que je viens de lire. C'est dans 1 Pierre 3:15. Ce que je viens de dire, c'est qu'il faut se vanter de cette vérité. Si on veut se vanter, il faut que ce soit de cette vérité seulement qu'on se vante. Et puis, dans 1 Pierre 3:15, c'est marqué aussi, « Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Et soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en vous. » Donc, non seulement il faut oser proclamer la vérité, il faut aussi être prêt à répondre aux questions, comme Gaston avait dit, c'est pas juste un disque. Souvent, j'ai essayé moi-même de prendre les répliques des chrétiens dans l'Église du passé, de toujours avoir des bonnes réponses, des réponses convaincantes, puis très bien dites, avec un langage compliqué. Mais Paul, il nous dit, non, c'est pas avec un langage compliqué que je vous ai annoncé la bonne nouvelle. C'est avec sincérité, je crois aussi. Il faut être vrai. Mais il faut avoir les réponses. Et puis, c'est pour ça que je reviens à mes petites ballons ici. C'était le pamphlet, un pamphlet que j'avais emmené, parce que c'est justement un sujet qui me passionne, les sciences et puis la recherche scientifique pour les origines. Et puis, il n'y a vraiment aucune raison d'accepter quoi que ce soit qu'on trouve dans la théorie de l'évolution notamment. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucune chose qu'on peut trouver dans l'évolution. Parce que des fois, ce que je remarque souvent, c'est que on accepte souvent la périphérie ou la superficie d'une doctrine, parce que c'est bien, ça a l'air intéressant. Mais ce qui est dangereux avec ça souvent, c'est que dès qu'on creuse plus loin, on voit comment c'est mauvais. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la Genèse, c'est vraiment la base de notre foi. Dans la Genèse, on trouve tout ce que nous avons besoin, en fait, parce que on trouve les sujets qui sont marqués ici. Dieu, la création, le mariage, le péché, le diable, le jugement, la promesse, le sacrifice, la résurrection, l'enlèvement. Et puis, c'est une fondation de notre foi. Il n'y a aucune raison pourquoi je devrais avoir honte de la Genèse. Il n'y a aucune raison pourquoi je devrais accepter quoi que ce soit qui est contraire à ça, parce qu'il n'y a rien qui me dit que c'est faux. Au contraire, il y a tout qui me dit que c'est vrai. Et puis, il y a toute une prédication dans cette photo ici. Je vais mettre ça ici. Et puis, je vais vous remontrer encore. Ce sera ici, on voit les deux châteaux. Et puis, ces deux châteaux, il y en a une qui est basée sur l'évolution ici. Puis une autre qui est basée sur la création. C'est en fait le fondement sur lequel on se base. On se base sur Jésus-Christ, mais ce que je veux dire, c'est que si on essaie de nous enlever la création, si on essaie de nous enlever la Genèse, c'est en fait tout ce qui découle de ça. Le mariage, la valeur d'une vie. Si on se prend pour des animaux, ben, il n'y a pas de problème. L'avortement, si on n'a pas une âme, alors on peut se tourner à l'euthanasie. Aussi, ce que la nature nous enseigne, c'est relatif ou c'est absolu. L'homosexualité, la pornographie, c'est peut-être pas des sujets qui découlent directement, mais c'est une philosophie qui est basée. Et puis, si on se prend pour des animaux, ben, c'est qu'il n'y a rien qui... Il n'y a plus de valeur. Et puis, ce que ce dessin nous exhorte à faire et nous encourage à faire, c'est vraiment d'être conscient et d'être clair sur quoi on se base. Il faut se baser sur la Genèse, parce que on voit que ceux qui viennent du côté de l'évolution ici sont en train d'attaquer la base. Pourtant, nous, on est toujours en train d'attaquer des sujets qui en découlent de l'évolution et de la perte de la création. Puis dans le dessin ici, on nous montre que ces sujets sont comme des ballons. Et puis, c'est très facile d'en péter, mais il y en a toujours une autre qui va se faire gonfler. Et puis, c'est tout un cycle vicieux. On est toujours en train de piquer les sujets. Mais il faut vraiment prendre la parole au complet l'avoir dans notre vie entière et de savoir où diriger nos attaques, il faut être solidement basé sur la création, solidement basé sur la Genèse. Et la parole entière, parce que la Genèse nous enseigne que la parole est complète et entière. Il y a une autre chose aussi, une leçon là-dedans aussi, c'est que je ne vais pas mentionner, ici avec les chrétiens, ici avec le drapeau du christianisme, sont même en train de se tirer entre eux. On passe aussi notre temps à discuter, de nous discuter entre nous. Et puis, on ne devrait pas faire ça. On a nos désaccords. On veut tellement être vrai. Mais quand ça vient à nous, quand il y a quelque chose qui nous touche, quand nous sommes dans l'erreur, on ne veut pas l'entendre non plus. Puis, on dirait que ça vient toujours à un endroit imprévu. À dire, non, je connais ça, je connaissais très, très bien. Mais quand il y a quelque chose qui vient, on ne s'attendrait jamais à quelque chose comme ça. Mais il faut vraiment être ensemble. Il faut vraiment être le corps de Christ ici. Il faut vraiment être que je puisse regarder chacun d'entre vous et que je ressente un amour et que nous puissions nous tenir ensemble et vraiment être basés sur ce que la parole nous enseigne et non nous entretuer parce qu'entre-temps, nous sommes en train de couler. Et puis, c'est justement le château ici est en train de couler. Donc, c'est ça. Il faut vraiment... peut-être une chose qu'on doit apprendre, c'est de travailler ensemble malgré les problèmes, malgré tout. C'est l'unité, ouais. Et puis, c'est là que la présence du Seigneur se fait connaître. Et puis, c'est là que les gens vont reconnaître que nous sommes chrétiens. Et c'est là que l'on puisse avoir une influence dans le monde. Et c'est là qu'on est dans la volonté du Seigneur.
Mais dans mon cœur, on est toujours attristé, comme vient de dire le jeune homme, par les divisions. Les divisions entre personnes, entre diverses confessions. Mais ce qui m'a fait le plus de peine aujourd'hui, c'est d'entendre une condamnation sur le corps du Christ. Là, c'était une religion qui nous dit que c'est péché de participer. Et le Seigneur, je verse sa parole et je vais vous lire en Marc 14, 22 et 23. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui nous convainc de péché. Jusqu'à présent, il ne m'a pas convaincu que c'était péché de participer au repas du Seigneur. Et là, tout à l'heure, il m'a remis une parole en Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu? Personne. Viens, Seigneur Jésus.
Amen.
Partagé dans mon groupe, je vais partager à plus encore. Ce matin, j'étais au bout de l'île, puis je lisais, je lisais les psaumes et tout ça. Et puis, je me suis énervée de faire ça.
Tu parles un peu plus fort.
Oui. OK, j'étais au bout de l'île, puis je lisais les lectures, je lisais dans les psaumes, la création, les oiseaux piaillaient autour de moi. J'étais moi-même la création de Dieu. Il y avait les mouches, il y avait l'eau, il y avait un gros bateau qui a passé. Puis tout à coup, je voyais pas le bord de l'eau. Puis là, tout à coup, je vois un canard, mais je savais pas si c'était un canard ou une canne. Puis elle était très, très droite, très belle. Puis il y avait comme une image de douceur, puis de dignité. Puis elle était comme tournée. Tout à coup, je vois les petits canetons arriver avec elle. Elle les attendait. Puis après ça, elle est retournée, puis est partie avec les autres. Mais tu sais, c'est parce que faut imaginer, je le voyais pas. C'était vraiment, ça a été comme une flèche d'amour qui a touché mon cœur. Puis je me dis, ça m'a fait penser à la poule qui rassemble ses poussins. Que je pense que c'est Jésus à Jérusalem qui désirait, je suis pas sûre, là, qui désirait rassembler ses poussins. C'est vraiment la grandeur et l'amour de Dieu. Et puis ça, ben, ça m'a été donné personnellement, je vous partage. C'est tout aussi la parole qu'on a parlé, que Dieu, il est amour, puis il est personnel. On est des êtres uniques, puis on est une beauté devant lui, c'est tout.
Et c'est vrai, quand Jésus descendait la montagne des Oliviers pour se rendre à Jérusalem, et qu'il voyait cette ville, il s'est écrié en pleurant, « Que de fois j'ai voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. » Ça rejoint exactement ce que nous avons lu. Que celui qui veut, c'est pas que celui qui peut. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. C'est ouvert, mais de notre côté, est-ce qu'il y a un obstacle? Oh, que nous puissions mettre tout cela au pied du Seigneur. Merci pour ton témoignage. Amen.